Bonsoir. Merci d'être si nombreux pour cette troisième, dernière discussion de cette 25e édition de Midi Minuit Poésie. Une discussion baptisée « Déplier l'enfance ». Et j'ai le plaisir de recevoir sur cette scène Paloma Hermina Hidalgo et Héloïse Brésillon. Et comme pour les invités précédents, il y a beaucoup de livres sur la table de vente de la librairie Durance. Mais pour cette discussion, on va s'attacher aux deux livres qui seront ce soir joués, performés. Pour Héloïse Brésillon, c'est T3M. Et pour Paloma Hermina Hidalgo, Féerie ma perte. Avec donc cette question centrale, déplier l'enfance, qui pourrait être peut-être même plus globalement le rapport à la famille, aux liens familiaux, aux liens de sang, et puis à la micro-société qui est une famille et la violence éventuelle qu'elle peut déployer, qui est déployée de manière complètement différente dans vos deux livres, dans vos écritures, mais avec chaque fois une manière d'aller chercher par, on va dire, un genre littéraire, d'aller chercher à se confronter à une réalité. Pour T3M, on est peut-être du côté de la science-fiction, pour le dire très rapidement. Pour Féerie ma perte, on irait chercher du côté du conte. Encore que, on peut le détourner, mais voilà, le terme féerie, il peut être expliqué là. Comment vous avez, par exemple, reçu toutes les deux cette thématique, cette idée de déplier l'enfance et donc de le déployer en littérature, une question liée à l'enfance? Est-ce que ça vous parlait immédiatement et vous voyiez de quoi il s'agissait par rapport à vos œuvres? Alors, Paloma.
Alors, c'est vrai que c'est un propos extrêmement vaste et polysémique. Ce que ça connote tout de suite, peut-être, c'est le rapport, la question sempiternelle de la distinction entre l'autobiographique, la part biographique et la part fictionnelle. Avec un titre, pour ma part, comme « Féerie ma perte », on pourrait présupposer effectivement la voix du conte, la veine du conte, mais néanmoins, tout ce que j'écris, c'est mon quatrième livre à ce jour, prend appui comme point de départ une base autobiographique que j'entends transcender par la fiction et la liberté, la crudité, la violence parfois de l'imaginaire pour toucher à quelque chose, enfin c'est mon ambition, hein, vous le recevez comme vous l'entendez, pour toucher à quelque chose d'universel au-delà du caractère singulier de toute enfance, de chaque enfance.
Et Louise ?
Et moi, je pense que la place de l'imaginaire, du coup, sous la forme de la science-fiction, m'a permis beaucoup de choses, et notamment d'avoir une certaine pudeur, justement, par rapport à la matière biographique, de montrer des scènes qui vont être clés, qui sont effectivement biographiques, mais en même temps d'aller vers la science-fiction pour ne pas tout dire, pour pouvoir dire de façon détournée aussi. Et la science-fiction m'a permis notamment de vulgariser tout un tas de choses qui ont rapport avec les conséquences de la violence. Justement, tu parlais du cadre familial où il peut y avoir de la violence. Bah, la SF m'a permis de créer un dispositif qui permettait d'expliquer aux gens les conséquences directes de cette violence intrafamiliale sur le cerveau, sur le corps. Sans avoir forcément à rentrer dans la matière biographique la plus frontale, quoi. Même s'il y a aussi des scènes frontales et violentes parfois, mais voilà. Et donc le titre, pour revenir à la question principale, le titre « Déplier l'enfance », bah, moi ça m'a tout de suite parlé. Et effectivement, quand j'ai vu le travail aussi de Paloma, c'est vrai que ça on se rejoint là-dessus. Il y a quelque chose de l'ordre même de déplier l'enfance dans mon livre, en tout cas. C'était ma démarche. Ça résume presque ma démarche, quoi.
L'idée de déplier fait penser à une carte qu'on déplie, qu'on déploie. Or, c'est très flagrant dans T3M, mais c'est aussi présent dans Féerie ma perte. La topographie, la cartographie, l'arpentage de lieux est extrêmement important et figure et ancre vos récits et vos éventuelles autobiographies dans différents éléments de paysage. Ça, c'était d'emblée dans l'écriture. Il fallait situer, il fallait créer une sorte de carte même mentale de ce récit.
Moi, c'était même avant l'écriture, pour le coup. C'était vraiment c'est mon chemin, en fait, de cartographier, parce que la violence a cette faculté à fragmenter un petit peu la mémoire, à fragmenter l'existence, à fragmenter le corps. Et donc il y avait quelque chose de l'ordre de plein de morceaux éparpillés à rassembler et effectivement faire une cartographie. Et moi, pour le coup, c'est très... Oui, c'est vraiment la base même du livre, l'idée de cartographier l'enfance, de cartographier les souvenirs, la mémoire traumatique, pour essayer de trouver d'autres routes qui ne rendent pas triste. Du coup, c'est ça dont je parle dans le livre, d'essayer de créer des déviations entre ces morceaux fragmentés et violents. Donc oui, moi, c'est vrai que ça a été... Donc il y a même des coordonnées géographiques partout dans le livre. C'est vraiment... une façon de se recomposer aussi en cartographiant.
Oui, cette idée de cartographie, de topographie, pour ma part, je l'entends comme un castelet de marionnettes, parce que pour en dire deux mots très brefs, ce texte, Féerie ma perte, c'est une revisitation du mythe du golem dans un castelet, donc de marionnettes lesbiennes, sadiques. Je pense que je déploie un peu, pour reprendre le terme de cartographie, je déploie un peu cette géographie selon des corridors, des pièces, quelque chose de miniaturisé dans lequel le personnage de maman, qui est une figure tutélaire dans tous mes livres et qui revient encore une fois dans ce quatrième livre, maman va déployer des décors, un théâtre de la punition et des délices au gré de... C'est un univers très singulier, au gré de ces pièces. Déplier l'enfance, tout de suite, une image qui m'apparaît, alors c'est la fleur de thé proustienne, quelque chose qui éclot, qui se déploie. Et puis le tissu. Il y a un fétichisme du tissu dans beaucoup de mes textes, en particulier dans celui-ci, l'enfance comme une étoffe lacérée qu'on pourrait déployer à l'infini et qui se moirerait comme dans un jeu d'anamorphose.
Tu parles du tissu, du golem. Oui. On pense forcément au fait qu'il est fabriqué de terre, de glaise. Dans vos deux textes et dans vos deux manières d'approcher le récit, la question des matières est extrêmement importante. On les touche, on les sent, on les entend, on les goûte, on les éprouve. Tous les sens sont convoqués dans les deux textes, encore une fois, de manière complètement différente dans la forme de l'écriture. Mais j'ai l'impression que pour vous, il y a cette matière organique extrêmement importante pour incarner.
C'est effectivement extrêmement organique en ce qui concerne mon texte. On pourrait même parler d'une hyperesthésie, une exacerbation des sens, de même qu'une synesthésie, tous les sens sont connectés. C'est à la fois organique et en même temps, il y a toujours ce surplomb cérébral. Les deux s'intriquent d'une certaine manière.
Et oui, moi aussi, pour moi, c'est très important parce que dans les mécanismes encore une fois, je reviens souvent à ça parce que c'est vraiment là-dessus qu'est centré T3M, sur les mécanismes de la violence, comment on la reçoit, qu'est-ce qui se passe dans le corps et dans le cerveau quand on est en train de vivre un souvenir traumatique, une réalité traumatique qui va devenir un souvenir traumatique. En fait, notre mémoire n'enregistre plus les souvenirs de la même manière que d'habitude. Donc c'est une mémoire qui va être anhistorique, qui va être complètement en dehors de la linéarité des événements vécus dans une vie, et notamment qui va être très basée sur les sensorialités, justement. Et sur le... Donc il y a un poème entier dans T3M où je décompose la même scène selon les différents sens. Parce que justement, quand on est en train de vivre une scène qui est d'une extrême violence, c'est notre cerveau disjoncte en fait, en quelque sorte, et donc on se met à absorber le souvenir juste par des connotations sensorielles et absolument sans douleur, et donc très neutre et voilà, entièrement sensoriel. Donc c'est vrai qu'il y a cette importance aussi pour moi d'aller explorer les différentes sensorialités pour répondre un petit peu à cette réalité là
Oui, parce que dans vos deux textes, dans les deux cas, il y a la question du trauma et de comment passer outre ce trauma, ou en tout cas, si ce n'est le soigner, en tout cas faire avec, vivre avec. Ça passe par une forme en caricature un peu psychanalytique dans tes troisièmes, peut-être plus métaphysique pour toi, Paloma, dans Féerie ma perte. Il y a cette idée de passer par d'autres endroits, d'autres prismes pour avancer avec ce trauma et finalement en faire littérature.
Ouais, moi c'était très important pour moi de justement cette idée de dépassement, et j'avais pas envie que le texte soit uniquement violent, uniquement lourd, uniquement pesant. Donc j'ai vraiment réfléchi toute l'architecture du texte pour que pour que chaque poème ait une, explicite une réalité de la mémoire traumatique, et en même temps que la fin, je la voulais absolument pas aussi sombre que le reste. Je voulais aller vers la lumière, je voulais aller vers des solutions, apporter des, voilà, apporter une réflexion qui soit plus, qui donne plus d'espoir pour pas être ancrée dans la négativité et dans le poids de ces souvenirs qui sont importants à verbaliser, mais aussi à trouver des outils pour justement et aller vers le livre. Je pense que c'était important pour moi de faire le travail d'écrire ces textes et peut-être de les lire parce que sur une scène ouverte, par exemple, parce que j'ai une scène ouverte où j'ai lu tous ces textes avant. C'était important pour moi, ça, c'était important pour moi. Mais après, écrire le livre et tout le dispositif science-fictionnel que j'ai créé, c'était important pour délivrer certaines choses et pour qu'on ressorte du livre avec peut-être des outils. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais en tout cas, c'était l'envie que j'avais que ce ne soit pas uniquement une décharge cathartique, mais de quelque chose de l'ordre du dépassement de ça et de la transformation.
Je suis entièrement d'accord avec ce que tu formules, Héloïse, et je trouve que c'est même ton propos précédent était d'une importance capitale parce qu'on est vraiment au cœur de la création, enfin de ma création. Donc tu verbalises des choses qui me tiennent beaucoup à cœur. Et sur la question du trauma, alors dans mon propre texte, il y a évidemment une veine tragique, mais elle est peut-être pas contrebalancée, mais métissée, je dirais, avec une veine comique. Différents registres d'humour qui sont convoqués. Ça peut être un humour très léger, très enfantin, très gras, très graveleux, très noir, très sarcastique. En tout cas, je ne sais pas si on se bidonne, évidemment, en le lisant, mais ça me permet, quand je le mets en voix, mets en scène moi-même, de jouer avec ces différents registres. Il y a même du burlesque, du grotesque, je le lis jamais de la même manière. Et c'est très important, de ne pas, à mes yeux, de ne pas s'engluer dans ce qui pourrait être de pousser la plainte pathétique du lugubre et de la douleur, mais de prendre une forme de distanciation qui n'est pas simplement une sublimation et une purgation des passions, hein, c'est la définition de la catharsis, mais un jeu, J-E-U, qui rejoint pour moi le travail du deuil, j'allais dire du jeûne, comme si le deuil était un jeûne, c'est intéressant, carême. Voilà, bon, on va trop déplier ce soir sur l'enfance, on n'a qu'une demi-heure.
Comment vous trouvez, pour entrer vraiment dans le processus d'écriture, comment vous trouvez la forme qui vous semble juste par rapport à cette nécessité de récit? Est-ce que ça passe par plusieurs tentatives avant de trouver la bonne forme? Est-ce que d'emblée, vous aviez, l'une comme l'autre, tout de suite, l'idée de cette forme, justement, soit science-fiction, soit... je ne sais pas comment le définir, d'ailleurs, ton texte exactement, mais des micro-formes à la fois poétiques et burlesques, comme tu le disais.
Au départ, ce texte, Féerie ma perte, c'est une pièce de théâtre que j'ai par un... savant jeu de mots, de sauts à la ligne sur Word qui m'a pris en tout et pour tout 3 minutes 50, que j'ai transformé en recueil poétique en enlevant certes les didascalies. Alors au départ, il y avait aussi un système de chœurs, de coryphées, ce qui n'apparaît pas, ça a été éliminé.
Je me demandais si c'était justement tous les passages en italien.
Est-ce que alors, il y a des passages en italien.
Ça ressemblait à un chœur, en fait. Ils sont en italique, ça pouvait ressembler à une réponse.
Non, je ne sais plus, en vérité, mais on peut, si des metteurs en scène se trouvent dans le public, vous avez toute liberté d'en faire un chœur, un coryphée. C'est très libre, en fait. Et donc, oui, c'est transgénérique. Il y a une pluralité de formes, celle du recueil, celle du récit, on peut le voir comme une nouvelle, la poésie, le poème en prose suivi, et j'ai beaucoup de mal à me ranger dans une catégorie en particulier. Mon premier livre, d'ailleurs, pour moi, c'était un texte, point. Il a été estampillé poésie, et je comprends tout à fait, pour des raisons éditoriales, qu'on ait besoin de cataloguer. Mais bon, voilà, il se trouve que maintenant, je suis poète. Ravie.
Moi, la question de la forme, elle se pose de manière... sur les poèmes. Parce que, en tout cas, dans tes trois poèmes, c'est des poèmes qui sont très architecturés, avec, comme je disais, par exemple, plusieurs sensorialités différentes, etc. Ces formes-là, ces questions de formes-là, elles viennent avant même l'écriture du poème. Je sais déjà quelle forme je veux qu'il ait avant que je l'écrive. Mais par contre, sur la science-fiction, le fait de mêler science-fiction et poésie, en l'occurrence, moi aussi, je m'intéresse beaucoup aux formes hybrides. Et en fait, j'ai fait une thèse de recherche et création sur ces questions-là, en fait, sur la question de mêler science-fiction, poésie, son, performance, musique, et sur justement ce qui se produit quand on est à la frontière de différents genres, et qu'est-ce que ça produit comme texte, qu'est-ce que ça produit sur les gens, qu'est-ce que ça produit justement sur les catégorisations éditoriales. Donc ça fait partie de tout mon travail de recherche, et donc T3M, c'est une partie de ce travail, en fait. C'était une façon pour moi de tester de façon empirique par la pratique les questions que je me posais dans ma recherche théorique. Voilà, donc c'est pour ça que moi aussi j'ai une passion pour les genres hybrides. Mais par contre, j'ai galéré grave à le mettre en œuvre. Autant j'avais complètement la forme des poèmes, autant par contre sur l'aspect SF, ça a été une tannée de l'écrire. Je suis revenue beaucoup, j'ai hésité beaucoup. Je trouvais jusqu'à la fin, que c'était l'équilibre était très compliqué à tenir. Et voilà, donc ça a été beaucoup de questionnements et de remise en question, mais voilà, je suis finalement contente de ce que ça a donné.
Puisqu'on parlait d'hybridation, les performances que vous donnez ce soir, qui sont des hybridations, donc soit avec la musique, soit avec le dessin, c'est une étape de plus autour de ce corpus de texte. C'est comment vous l'envisagez et comment vous l'avez travaillé, si ça a été travaillé en amont?
Moi, c'est pas du tout une étape de plus, c'est vraiment au fondement même du texte, parce que chaque poème est déjà né sur scène, avant tout.
D'accord.
Et la question de la scène, de l'oralité, de la performance est au tout départ de mon travail. Donc, par exemple, quand j'écris, je relis à voix haute absolument tout ce que je fais pour voir si ça passe justement dans un micro, si le rythme fonctionne. Et voilà, donc moi, c'est vraiment pas du tout une continuité, c'est partie prenante. Et d'ailleurs, j'ai travaillé avec Franck et Alex sur la forme performée avant même la sortie du texte. Ça a vraiment accompagné la sortie du texte. Pour moi, c'est deux choses qui vont ensemble. Et je trouve même parfois que la forme performance, c'est un peu l'aboutissement du texte, dans le sens où, enfin, ça permet pas les mêmes choses, mais là, en tout cas, on m'a fait le retour, par exemple, qu'il y a certaines personnes qui se posent la question, est-ce que c'est à la frontière de la SF, est-ce que c'en est vraiment, et que quand on écoute, on sent vraiment justement une atmosphère SF. Donc pour moi, il y a presque une forme d'aboutissement, mais qui va avec le texte, et qui voilà, les deux dialogues, et c'est pas du tout des formes séparées qui arrivent l'une après l'autre, quoi.
Oui, je te rejoins assez, Héloïse. Enfin, c'est très différent, mais on a certaines analogies, je crois. Quand j'ai écrit Féerie ma père, donc, qui était sous une forme théâtrale au début, qui s'est d'ailleurs écrit très très vite, j'avais des images très précises de mise en scène au théâtre, parce que je pensais pouvoir le publier sous forme de pièce au tout début. Et j'en ai donné, alors donc c'est un recueil, et j'en ai malgré tout donné des performances, notamment à la Maison de la Poésie de Paris récemment, avec une violoncelliste qui jouait en contrepoint vraiment, qui apportait parfois, alors le violoncelle c'est parfois souvent un instrument qu'on associe à une forme de mélancolie, n'est-ce pas, mais elle apportait au moyen des pids une légèreté en contrepoint, je pense en décliner plusieurs versions. Alors ce que vous allez voir ce soir, si vous assistez à 22h15 à la lecture dessinée, c'est une autre étape. Je n'avais personnellement jamais travaillé avec une dessinatrice, en l'occurrence elle dessinera en live, je pense décliner d'autres formes, notamment avec un groupe de black metal, une forme qui me tient beaucoup à cœur. C'est encore embryonnaire, mais qui est tout à l'écho de l'énergie que je déploie sur scène, je crois.
À voir tout à l'heure. Donc, dans ces textes, il y a des figures importantes, et la figure de la mère est très importante. Alors, dans tes textes, Paloma, tu le disais tout à l'heure, la mère revient comme figure centrale en permanence. Mais c'est aussi le cas dans T3M. Elle est au cœur du récit. Je proposais que peut-être vous, si vous êtes d'accord, vous lisiez un petit extrait qui figure
volontiers,
le personnage de la
Merci.
Mère, chacune, et puis qu'on voit un peu dans les quelques minutes qui nous restent à quels endroits ça se situe.
On fera un commentaire de texte.
Exactement.
En 6 heures. Au commencement était maman. Et maman était avec Dieu. Et maman était Dieu. Oui, Da, toutes choses ont été faites par elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des poupées. Et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Mais à toutes celles qui l'ont reçue, à celles qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir d'être poupée de Dieu, lesquelles sont nées non de sang, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Poupée de Dieu ? Je vois, moi, une foule de petites gonzesses qui tournent sans repos sur elles-mêmes pour s'offrir de tout petits plaisirs, qui consentent à leurs joues, ou plutôt le pourchassent. Il y a une seule chose que les filles n'ont pas la force de désirer, la liberté. Elles la dédaignent parce qu'en la désirant, elles l'auraient. La vraie nature des choses, c'est maman. C'est elle qui a créé le Castelet en 6 jours. Son trône était sur l'eau, ergo, la poupée doit être en elle-même. Et cette une, il faut qu'elle aille le chercher en elle-même et dans l'une. Il faut qu'elle le reçoive dans l'une.
Entre chaque flocon froid, mon enfance en pointillé chute. 2001, c'est mon 7e anniversaire. Et pour cadeau, j'ai eu la Subaru tout-terrain de maman qui file sous la neige, les roues qui tracent droit sur les plaques de verglas sans scier, sans regarder dans le rétro. Pour cadeau, j'ai eu la Subaru tout-terrain de maman qui taille son bout de liberté, le pied sur l'accélérateur. La voiture roule coffre ouvert. Elle abandonne sur la glace goudron des sacs et des sacs de neige blanc. Des sacs remplis de cris en écho troglodyte, remplis de peurs froissées dans les mouchoirs et de blouses d'hôpital. Des sacs bourrés des cotons humides qu'on se met sur les yeux gros et rouges et du fond de teint pâle pour cacher la bosse de la petite. La voiture roule coffre ouvert, elle laisse les sacs tomber derrière elle. Devant, c'est maman lèvres blêmes, c'est maman lèvres cousues. Avec le coton du silence, elle m'a pas dit qu'on reviendrait jamais. C'est la surprise de mon 7e anniversaire. Devant le pare-brise, la nature givrée suinte en couleur, c'est fini, les jours en noir et blanc.
Merci à toutes les deux pour ces extraits. Et donc la figure de la mère centrale ici, je réalise aussi qu'il y a bien d'autres figures, on va dire féminines, voire féministes, qui traversent vos récits. La poupée, par exemple, on retrouve la Matryoshka dans tes 3e. Il y a quelque chose autour de cette figure déique, comme tu l'as décrite, de la mère, qui est à la fois extrêmement présente, peut-être parfois écrasante et en même temps active, et en même temps absente. Enfin, on passe par plein de registres, émotionnels en tout cas, dans vos deux récits, autour de la figure de cette mère.
Oui, dans mon cas, c'est une mère extrêmement bifide. Elle est à la fois monstrueuse, cruelle, faiseuse de fantasmes. Elle est à la fois, c'est un texte qui explore, on aurait pu le dire d'entrée de jeu, sans trop déflorer, qui explore notamment l'inceste entre une mère et sa fille. Une mère qui, au plan diégétique, n'hésite pas à livrer sa propre fille lors de scènes d'orgie. Il y a quand même des figures masculines qui sont représentées, mais vous évoquiez le féminisme, si l'on peut considérer que les poupées se vengent en sodomisant un évêque, un gang de poupées. Mais je ne m'inscris pas dans une veine féministe revendiquée avec ce texte, je joue sur un registre d'ambiguïté. Donc il y a effectivement d'autres personnages que la mère, la poupée, la marionnette, qui sont des mini-golems pris entre bois et chair. Que maman façonne. Et en regard, on a Poupa, la fille humaine de maman, qui improvise un théâtre de la punition et des délices, comme je le disais, en convoquant le flot des épisodes maternels et pornographiques, souvent traumatiques.
Héloïse. Moi, la figure de la mère n'est pas du tout au même endroit. Moi, c'est la figure de la mère, c'est ce qui permet les respirations dans la violence. C'est de cette maison que j'appelle la maison trou et qui revient à plusieurs endroits.
Et d'ailleurs dans ton précédent livre aussi.
Dans le deuxième. Ouais.
Ah oui, c'est le deuxième, pardon.
Ouais. Dans l'ordre. Et oui, en fait, ce qui est intéressant pour moi sur que tu poses cette question, c'est que au départ, quand j'ai écrit ce livre, j'étais persuadée d'avoir écrit un livre sur mon père, sur la figure du père plutôt. Et en fait, j'ai un ami qui l'a lu avant sa sortie et qui m'a dit mais pas du tout. Ton père apparaît même pas ou juste sur une scène. Et en fait, il avait vraiment raison. Et du coup, j'ai compris après que j'avais écrit un livre sur ma mère sans vraiment le conscientiser. Mais voilà. Donc, ça m'intéresse que tu soulèves ça, parce que c'est quelque chose qui est venu après, qui a été une réalisation a posteriori, et qu'en fait, c'est sur notre libération à toutes les deux, en fait.
Ce qui peut faire peut-être une bonne conclusion pour cette conversation qui s'achève déjà sur ce que révèle. Un texte, une fois, si ce n'est publié, joué, lu, dit, qu'est-ce que ça vous envoie comme miroir ? Vers quoi ça vous amène en termes d'écriture, par exemple, ces différents textes ? Qu'est-ce que ça a provoqué chez vous ? Ou qu'est-ce que ça provoque chez vous ?
C'est un miroir, effectivement, qui est pluriel et diffracté et qui ne nous appartient pas entièrement à partir du moment où le texte est publié, il vous appartient à vous, lectrice, lecteur, de vous en emparer. Et c'est une véritable... sous une forme un peu triviale, banale, c'est un voyage intérieur. Je m'arrêterai là, je vais dire des banalités.
Non, mais je te rejoins totalement. C'est le moment où le livre sort, il échappe et il devient quelque chose pour d'autres personnes. Et donc, moi, c'est vrai que je ne sais pas à quoi je m'attendais en fait en publiant ce livre. Au départ, c'est né d'une nécessité d'écrire ces textes. Après, ce qu'il en advient, ça m'a énormément surpris et ça continue de me surprendre. D'avoir des gens qui viennent me voir et qui viennent me parler aussi de leurs histoires, se relier en fait grâce à ce texte, moi ça me bouleverse systématiquement. Donc voilà, c'est ça. Mais après, ça m'a aussi donné envie d'explorer d'autres choses que la matière autobiographique, parce que c'est très intense et très de recevoir ce que une fois qu'il appartient au monde extérieur, de recevoir tout ça, c'est à la fois très très beau, très intense. Et voilà, donc j'ai eu envie de souffler un peu sur le deuxième. C'est beaucoup moins autobiographique, mais ça n'empêche que j'y reviendrai, parce que c'est des moments d'une grande force.
Je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci
à vous.
Paloma Hermina Hidalgo et Héloïse Brésillon. Paloma, on te retrouve tout à l'heure sur la scène du Salon de Musique avec Karine Bernadou à 22h15 pour Féerie ma perte, et puis Héloïse Brésillon avec le collectif Voix. C'est à 23h dans le même Salon de Musique. Merci.